Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Dans notre émission Les yeux au ciel, je vous propose aujourd'hui de vivre en direct la révolution héliocentrique, celle qui a sorti la Terre de sa place au centre de l'univers. J'aimerais aujourd'hui vous parler de Copernic. Nicolaus Copernic est un moine astronome polonais qui suggéra que la Terre et les autres planètes tournaient autour du Soleil dans un système héliocentrique, et non, comme on le pensait alors, dans un système géocentrique dont la Terre était le centre. La théorie héliocentrique de Nicolas Copernic n'est pas entièrement nouvelle, puisque plusieurs savants, dont Aristarque de Samos, avaient déjà proposé un système héliocentrique. Mais Copernic théorisa également un nouvel ordre pour les planètes, en fonction de leur distance au Soleil. Ses idées étaient contraires à celles de l'Église catholique de l'époque, qui considérait l'humanité et la Terre comme le centre propre et réel de l'univers de Dieu. La réaction à l'œuvre majeure de Copernic, De Revolutionibus, qui a été publiée l'année de sa mort, a été très discrète. Il n'y a pas eu beaucoup de bouleversements révolutionnaires de la façon dont chacun voyait la place du monde dans l'univers, comme on le prétend souvent. Néanmoins, les travaux de l'astronome ont peu à peu conduit à des recherches plus poussées de la part d'autres scientifiques et de mathématiciens ultérieurs qui ont fini par prouver que le système héliocentrique de Copernic, avec une Terre en rotation, bien que présentant plusieurs défauts, était essentiellement correct. Mais revenons un petit peu sur sa vie. Nicolas Copernic, de son vrai nom Mikołaj Kopernik, naquit le 19 février 1473 à Toruń, en Pologne, qui faisait alors partie de la Prusse. Son père est un riche marchand, mais après sa mort en 1483, Copernic fut adopté par son oncle Lucas. Il est important de noter que Lucas deviendra plus tard évêque de Varmia, et que le jeune Nicolas était également destiné à faire carrière dans l'Église. Mais il commença par étudier l'astronomie à l'université de Cracovie. Sa vaste formation en arts libéraux comprenait également des mathématiques, de la philosophie, de l'histoire. Ses voyages se poursuivirent lorsqu'il donna des cours de maths à Rome en 1500, après quoi il se rendit à l'université de Padoue pour poursuivre des études de médecine. Enfin, en 1503, il obtint un doctorat en droit canonique à l'université de Ferrare. Cette vaste formation lui sera bien utile dans ses futures recherches, mais ce sont peut-être les observations astrologiques qu'il fait à Bologne qui le poussèrent vraiment à résoudre ce problème des corps célestes et de leur mouvement. Copernic retournera en Pologne en 1506, où il fait office de médecin pour son oncle. Son oncle l'établit alors comme chanoine de l'église, alors qu'il n'a jamais été prêtre. Une fonction qui lui permet de percevoir des loyers, mais qui l'oblige à gérer des biens et à superviser les finances de l'évêché de Formborg. Malgré ses tâches mondaines, Copernic n'oublia jamais l'astronomie, et il continua à approfondir ce domaine d'études pendant son temps libre. Dans son étude du ciel, Copernic dut faire face à plusieurs problèmes qui divisaient les astronomes. Alors il y avait l'idée persistante, proposée pour la première fois par Aristote, 300 ans avant Jésus-Christ, que les planètes se déplacent de manière uniforme, dans un milieu indéfini de sphères visibles. Que les planètes se déplacent de manière uniforme sur des sphères invisibles, toujours à des distances fixes d'un point central qui est la Terre. Cela signifie que l'univers doit être constitué d'une série de sphères concentriques. Malheureusement, cette théorie ne correspondait pas totalement à l'expérience vécue en observant les variations, par exemple, de luminosité des planètes dans le ciel nocturne. Comment les planètes pouvaient-elles être à tout le temps à la même distance de la Terre si leur luminosité variait ? Il y avait un autre problème ancien et bien connu dans ce domaine, c'était le déplacement rétrograde des planètes dites externes, comme Jupiter, Saturne, mais surtout comme Mars. En effet, ces planètes présentent des mouvements parfois étranges, en donnant l'impression de s'arrêter dans leur course, de repartir en sens inverse et de s'arrêter à nouveau avant de repartir en avant. Ce mouvement rétrograde n'était pas expliqué par les théories d'Aristote. Le modèle aristotélicien a donc été enrichi par Claude Ptolémée, notamment afin d'expliquer ces mouvements étranges de Mars. Ptolémée avait ajouté au modèle d'Aristote des épicycles, des petits cercles, suivis par les planètes, dont le centre, c'est-à-dire les coins, se déplacerait, lui, en cercle autour de la Terre. Ces petits épicycles expliqueraient à la fois la variation de luminosité, mais aussi les mouvements rétrogrades. Copernic connaissait et étudia toutes ces théories. Mais leur complexité semble avoir été inventée pour expliquer un modèle original qui peut-être lui-même est défectueux. Si l'on changeait le point central des coins, le comportement physique des planètes deviendrait alors plus clair et la théorie s'expliquerait beaucoup plus simplement. Alors Copernic travaille. Il travaille pendant 3 décennies sur ses théories concernant les relations entre la Terre et les corps célestes. Le télescope n'avait pas encore été inventé, mais il engrangea des observations des éclipses de lune, des mouvements des planètes, des observations des constellations, et il finit par trouver une explication aux choses qu'il voyait, peut-être vers 1514. Il est à noter que Copernic utilisa aussi de nombreuses observations d'astronomes antérieurs, profitant ainsi de l'expérience des scientifiques avant lui. Copernic était actif et respecté dans le domaine de l'astronomie, comme en témoigne l'invitation qui lui fut faite en 1414 pour assister au 5e concile de Latran. Il devait y présenter son point de vue sur les réformes proposées pour le calendrier. Le calendrier est très important pour les jours saints de l'Église, mais depuis très longtemps désynchronisé par rapport à la position du soleil un jour donné. Mais Copernic ne s'y rendit jamais. Le résultat final de ses recherches ne fut rien moins qu'époustouflant pour la communauté universitaire européenne. Voici les 6 propositions de Copernic dans son livre « De Revolutionibus ». D'abord, le principe héliocentrique. Le Soleil est au centre de l'univers. Contrairement au modèle géocentrique de Aristote et de Ptolémée qui plaçait la Terre au centre de l'univers, Copernic propose que le Soleil occupe une position centrale. Toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. La 2e proposition de Copernic, ce sont les orbites circulaires. Les orbites des planètes autour du Soleil sont circulaires et non épicycliques. Copernic soutenait que les planètes décrivent des orbites circulaires autour du Soleil. Alors, nous savons aujourd'hui que les orbites sont en réalité elliptiques. Mais cette idée est un énorme pas en avant par rapport au modèle complexe des épicycles de Ptolémée. Copernic établit aussi que la Terre a 3 types de mouvements distincts. D'abord, une rotation quotidienne. La Terre tourne sur elle-même, autour de son axe, une fois par jour, ce qui explique l'alternance jour et nuit. Ensuite, une révolution annuelle. La Terre tourne autour du Soleil, en un an, ce qui explique les variations saisonnières. Et enfin, l'inclinaison de son axe. L'inclinaison de l'axe terrestre reste constante par rapport à l'écliptique, ce qui contribue également aux saisons. Copernic établit aussi que la précession des équinoxes, cette lente variation de l'orientation de l'axe de rotation de la Terre, est due à des changements dans cet axe, et non à un mouvement de la sphère des étoiles fixes. En affirmant que la Terre tourne autour du Soleil, il affirme donc que la Terre n'est plus au centre de toutes les orbites, mais que les étoiles fixes sont beaucoup plus loin que les planètes. Par conséquent, le centre de l'univers n'est pas la Terre, mais probablement proche du Soleil, qui est le centre des orbites planétaires. Bon, on sait maintenant qui se trompait. Finalement, le dernier principe, c'est que les mouvements apparents des corps célestes sont dus aux mouvements de la Terre. Les mouvements rétrogrades apparents des planètes sont expliqués par le mouvement de la Terre elle-même. Ces mouvements apparents résultent de la combinaison des 2 mouvements, en fait. Quand la Terre, qui est plus rapide que Mars, par exemple, va la doubler sur l'orbite, on a l'impression que Mars part en arrière. Toutes ces idées radicales furent présentées dans De Revolutionibus Orbium Celestium de Copernic. Cet ouvrage comporte 6 volumes. Il ne fut publié qu'en 1543. Ce retard pourrait être dû à l'inquiétude de l'auteur quant à la réaction du public. En fait, il est un petit peu plus probable que Copernic était encore aux prises avec des détails et des problèmes mathématiques. Il a donc repoussé au maximum l'édition de son livre. En effet, il déclara lui-même être un mathématicien écrivant pour des mathématiciens. Et peu de personnes extérieures à ce domaine auraient compris son contenu. Le changement du titre original, où on va remplacer les orbes du monde par les orbes célestes, suggère que l'auteur essayait aussi d'éviter de mettre l'accent sur le monde réel, pour se concentrer plutôt sur les mathématiques théoriques. Il restait cependant un certain nombre de problèmes à régler. La théorie de Copernic avait supprimé l'explication dominante du phénomène observable de la gravité, à savoir que les choses tombaient au sol parce que la Terre était le centre de l'univers qui attirait tout à lui. Un autre problème, c'était que Copernic ne réalisait toujours pas que les orbites des planètes n'étaient pas tout à fait des cercles parfaits. C'est l'astronome allemand Johannes Kepler qui formula l'idée que les orbites étaient en fait elliptiques. plus problématique encore que ces questions de physique, les idées de Copernic allaient totalement à l'encontre de la vision traditionnelle de la place de l'humanité dans l'univers, telle qu'est proposée par la société de l'époque. L'idée que la Terre était le point central et que le Soleil et la Lune tournaient autour était conforme à l'idée que l'humanité était également au centre, voire le point central de l'existence de l'univers créé par Dieu. L'idée que la Terre est le centre de l'univers remontait à l'Antiquité, il était assez difficile de changer cela. Heureusement pour Copernic, bien que cela se soit produit sans sa permission, Andreas Osiander, un pasteur luthérien qui avait supervisé la publication de De Revolutionibus, avait inséré une préface indiquant que l'ouvrage était destiné à servir d'aide théorique aux mathématiciens et pas du tout à présenter la façon dont l'univers était en réalité. Ce point de vue était conforme à l'époque, l'astronomie et les mathématiques étant considérés comme des sujets théoriques. Un ouvrage tel que De Revolutionibus ne pouvait pas sérieusement tenter de changer la vision générale du monde physique, car cela était alors considéré comme une tâche relevant de la philosophie naturelle. La préface et la séparation des matières sauvèrent sans aucun doute l'œuvre et la mémoire de Copernic des foudres de l'Église catholique. Copernic mourut à Frombork un petit peu avant la publication de son livre le 24 mai 1543. En fait, la théorie de Copernic ne suscita que peu de réactions. Même le petit groupe de spécialistes en astronomie qui était son public cible ne réagit guère. La théorie de Copernic mit du temps à se faire connaître. Et à mesure que d'autres scientifiques commencèrent à explorer les mêmes thèmes, à rechercher des tables astronomiques toujours plus précises, l'œuvre de Copernic passa enfin au premier plan, quelques années après sa publication. C'est au cours des siècles suivants que des grands penseurs comme Galilée et Newton enrichirent le corpus de connaissances sur le mouvement et les propriétés des planètes, de la Lune et des étoiles. En ce sens, Copernic fut l'un des premiers protagonistes de la révolution scientifique qui débuta à la Renaissance. C'est en l'honneur de sa contribution à ce processus et à l'astronomie moderne que l'un des plus grands cratères de la Lune porte son nom, le nom de Copernic.